Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditrices, auditeurs de la Radio Rage, voix de jeunes, bienvenue à la semaine d'octobre. La Radio Rage, voix de jeunes, pour la commémoration des événements d'octobre, du 5 octobre 88, a préparé pour vous la semaine d'octobre sous le signe octobre 88, lutte inachevée. Aujourd'hui, pour parler de ça, nous avons l'honneur d'inviter Mahmoud Rochdi, secrétaire général du PST, Parti socialiste des travailleurs. Bonjour.
Eh bien, bonjour et merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, octobre 88, c'est octobre des libertés, octobre de l'espoir, d'un État, de la construction d'un État démocratique et social en Algérie, mais aussi octobre 88, c'est des octobre de déception après tant d'années, octobre de beaucoup de choses. Donc, Mahmoud Rochdi, vous étiez militant à cette période, vous donc. Qu'est-ce que ça vous dit en tant que personne dans cette période-là, le 5 octobre 88? Qu'est-ce que vous retenez d'octobre 88, des événements d'octobre 88?
Ben encore une fois, merci pour l'invitation, pour Rage et sa radio notamment. Et si vous permettez, avant tout, je pense qu'il va falloir dire quand même, avant le 5 octobre, il y avait un 4 octobre et un 3 octobre, il y avait même un septembre, etc. Oui. Et le but, je pense que ça vaut le coup de rappeler brièvement un peu le contexte, c'est-à-dire aux origines d'octobre, en fait. Pourquoi octobre? Pourquoi il y a eu octobre 1988 aussi, quelque part?
Justement, donc, c'est important.
Et donc, proposer aussi quelques éléments de rappel pour notamment les jeunes qui nous entendent ou qui nous écoutent à travers votre radio, pour un petit peu reconstituer brièvement le contexte. Il faut déjà savoir que, après les événements de 80, 81, etc., il y a eu évidemment un recul des luttes en Algérie, parce qu'il y a eu une répression, une grande répression, etc., dans les organisations qu'on appelait ça les organisations de masse du FLN du pouvoir, dans l'UGTA, dans l'UNJA, dans les trucs, etc. Il y avait un verrouillage à travers notamment de nouvelles lois, comme l'article 120 d'ailleurs, les statuts du FLN, etc. Et donc on est entré après 81 dans une phase de recul, des luttes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de luttes, mais ce n'était plus l'ampleur qu'on a connue avant, dans la deuxième moitié des années 70 et jusqu'en 80-81. Et ensuite, il fallait attendre à peu près, disons, 85, mais de façon plus nette, à partir de 86, la remontée des luttes. Donc il y avait une nouvelle vague de luttes, etc., en Algérie, et notamment le mouvement étudiant, par exemple, où nous étions, vous savez, le PST, le Parti Socialiste des Travailleurs que je représente là aujourd'hui, et a été proclamé en 1989. Mais avant 1989, donc avant octobre, ça s'appelait GCR, Groupe Communiste Révolutionnaire, et entre 1974 et 1989, 15 ans de clandestinité. Donc on était dans la clandestinité. Et donc là, dans le mouvement étudiant, mais aussi dans le mouvement ouvrier, dans les syndicats, malgré le verrouillage, etc., mais dans les sections syndicales de base, etc., il y a les syndicalistes, notamment, je veux dire, les militants de gauche, etc., généralement, c'est dans ce milieu, ils construisent leur combat, ils construisent leur rapport de force. Aussi, il y avait, par exemple, à mes souvenances, nous militions sur le plan culturel. Par exemple, on animait des ciné-clubs un peu partout dans le pays, à Alger, par exemple. Moi, en 81, 2, 3, on animait des ciné-clubs à Babloued, dans le cinéma de Marignan. On animait un cinéma de Mougarf, voilà. Le cinéma français. Il y avait des ciné-clubs spécifiques aux femmes, pour que les femmes puissent venir, enfin, les contraintes sociales, etc., familiales, puissent, disons, ne pas les en empêcher. Donc, il y a des femmes. Et d'ailleurs, une grande organisation du mouvement Femmes en Algérie, qui était la plus grande, justement, avec octobre en 89, etc., qui s'appelle l'AEF, l'Association d'émancipation des femmes, qui était présidée au début, d'ailleurs, par Salim Marzali, eh ben, qui était une camarade à cette époque, eh ben, cette organisation femme est issue de ce travail au niveau culturel dans le ciné-club et dans le cinéma amateur, etc., qu'on faisait.
Cette jeunesse qui était... qui bougeait, qui...
Voilà, absolument, construisait ça. Et je voulais dire, donc, il y a une nouvelle vague de lutte à partir de 86 et 87. Et il y a aussi un événement très, très, très important, voire déterminant, dans la suite des événements jusqu'en octobre, c'est la chute du prix du pétrole de 1986. Donc en 1986, il y a un effondrement du prix du pétrole, Et le pouvoir était un peu affolé. Pourquoi affolé ? Parce que déjà le pouvoir de Chedli Ben Jdid, représenté par Chedli Ben Jdid, déjà était depuis le début, voire la fin déjà des années 70 et début des années 80, sur une trajectoire politique d'aller vers ce qu'ils appelaient la politique d'Infiter. Ce qu'on a appelé nous aussi la politique d'Infiter, parce que ça nous rappelait l'ouverture en Égypte après la mort de Jamal Abdel Nasser et l'arrivée de Sadat. Et en Égypte, ça s'appelait Sieste l'Infiter. Et donc en Algérie aussi, d'ailleurs par exemple, à l'époque Tchadé au début, ils ont inauguré Riyad al-Fetah. C'est pas par hasard les appellations, il faut bien le savoir, il faut bien comprendre à cette époque justement Sieste l'Infiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on va laisser tomber, entre guillemets, l'option appelée socialiste, etc., de l'époque de Boumediene, et on va vers le libéralisme, vers le capitalisme, vers une ouverture, ce qu'ils appellent pudiquement l'économie de marché, etc. Mais il y avait évidemment des contradictions au sein du pouvoir. Donc Cain, ce qui, au contraire, c'est-à-dire l'ancien système, etc., ça leur permettait d'avoir, en tout cas leurs intérêts étaient plutôt liés à l'époque du système d'avant, et ce qu'ils voulaient ouvrir et aller plus vite dans vers la libéralisation, etc. Donc il y avait des conflits comme ça. La chute du prix du pétrole de 1986 a exacerbé ces luttes, les a encore rendus plus aiguisés, etc. Et ils n'avaient pas beaucoup de choix. Alors, ils ont commencé, par exemple, au niveau du pouvoir, et là, c'est une anecdote très importante, à mon avis, dans la compréhension des choses. C'est, par exemple, le pouvoir a commencé en 1987, par exemple, la nouvelle loi sur les associations en Algérie, qui, alors que celle de 71 verrouillée, etc., ben, 87, ils ont commencé un petit peu à ouvrir, mais avec les contradictions, puisque dans leur Assemblée populaire nationale, qui était du parti unique, évidemment, c'est-à-dire leur propre assemblée, ben les députés Taham n'étaient pas d'accord sur l'ouverture. Il a fallu que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Khdiri, d'accord, le Hadi Khdiri, il a fallu que le Hadi Khdiri leur dise, et ça c'est une anecdote véridique, explique pour convaincre ses propres députés en leur disant, écoutez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, طفينا الضوء في البلاد قال لهم سي لوبسكوريتي قال لهم كي طفينا الضوء في البلاد قال لهم ما حنا ولينا ما نشوفوش قال لهم دونك لا لوا هذه سور لاسوسياسيون سي جوست بور allumer une petite veilleuse pour qu'on puisse voir qui bouge qui fait quoi etc. Grosso modo, ça c'est pour vous donner une idée sur leur démarche d'ouverture, comment elle se faisait. Et ensuite octobre, je veux dire en 88, beaucoup de monde pense que ça s'est passé le 5 octobre, alors que non, c'est-à-dire en septembre 1988, il faut savoir, bien avant, j'ai essayé de rappeler les luttes de 86 du mouvement étudiant. Justement. La grande grève de 1987, d'ailleurs 6 et 7, moi j'ai participé, j'avais encore un pied à l'université. Mais je veux dire, ensuite, ça a donné d'ailleurs ce mouvement des comités autonomes qui a démarré notamment en 86 avec la grande répression de Constantine et Sétif, où des camarades à nous d'ailleurs étaient arrêtés et tout ça. Eh bien, c'est ce mouvement qui a créé plus tard, en 88-9, le SNEAD, le Syndicat National des étudiants algériens démocratiques et autonomes, le SNEAD, avec, par exemple, à leur tête, un militant très connu, etc., qui nous a quittés en 2007, et qui était un grand militant de l'époque aussi, dans la clandestinité, et même après, il était l'un des pères du syndicalisme combatif en Algérie, Redouane Ousmane. Voilà, donc ça c'est pour citer le SNEAD, et d'ailleurs Redouane Ousmane était l'un des premiers secrétaires généraux du SNEAD étudiant à cette époque. Et en septembre 1988, beaucoup de monde vont citer le discours de Chedli du 19 septembre, 1988, qui disait que les prix, c'est vrai, etc., il faut un peu se révolter contre les bouchers, contre les boulangers, des trucs comme ça. Mais ceux qui pensent que c'est ça qui a appelé à, etc., à mon avis, exagèrent un petit peu les choses, parce que ce n'est pas un discours, et ce n'est pas une instruction qui vient d'un palais qui peut faire la révolution. Ce n'est pas vrai, que c'est pas comme ça que ça se passe dans l'histoire de l'humanité. Par contre, en septembre, début septembre, bien avant ce discours, on avait la grande grève des travailleurs de la zone industrielle de Louiba. Voilà. Et la grande grève de Louiba était très 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 importante à ce moment-là, parce que c'est la plus grande zone industrielle du pays. Et donc ça veut dire, nous sommes en quelque sorte dans un bastion du mouvement ouvrier algérien de l'époque. Et ma foi, le développement de cette grève, etc., qui pouvait faire tache d'huile, pouvait justement donner un sens bien différent et bien plus progressiste, à mon avis, pour l'histoire qui allait venir après. Et d'ailleurs, et ça, mon dernier mot sur cet aspect des choses, c'est que il faut rappeler que les jeunes d'octobre, le 5 et le 6 octobre, etc., les premiers jours d'octobre, l'un de leurs mots d'ordre dans la rue, l'un de leurs mots d'ordre, c'était « Rouiba yadin zah » pour ceux qui ne le savent pas.
Voilà.
Et bien, quand il me chiffre très, les 5 et 6 octobre, beaucoup de gens ont dit « Rouiba yadin zah » comme ça, et ça veut dire qu'il faisait référence, ça veut dire qu'il reconnaissait sur la direction, j'allais dire, ouvrière de Rouiba pour cette explosion.
Justement, il était, le 5 octobre est arrivé, les manifestations étaient là, il y a l'armée qui tirait sur les jeunes. Il y avait beaucoup de dégâts, il y a des scènes de pillage, des jeunes qui, des gens, ils avaient marre de leur situation. Et bien c'était l'ouverture, donc l'ouverture, c'est la venue du multipartisme, c'est la venue de beaucoup d'espoir. Il y avait de l'espoir, mais en fait, juste après, il a été avorté cet espoir. Donc,
Moi, bien entendu, j'entends et je partage en partie ce que tu viens de développer. Mais attention, c'est-à-dire, il y a beaucoup de monde, par exemple, qui laisse entendre que comme si octobre, il y avait les gens dans la rue qui revendiquaient les libertés. C'est pas comme ça. Ben, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que, contraire, c'est le contenu social. Parce que même quand on parle de pillage et les jeunes qui ont fait, etc., quand on essaye de piocher un peu plus profondément les raisons des choses, etc., ben on verra qu'il y a une problématique sociale. Par exemple, les émeutes, on s'est attaqué à quoi dans les émeutes? Les jeunes d'octobre, ils sont attaqués aux édifices, non, aux édifices représentant le pouvoir.
Public, c'est les symboles de l'État qui s'effondrent.
Du pouvoir oppressif, du pouvoir, etc. Voilà. Et par exemple, les sorfellah, ou les garder les trucs, etc. C'était quand même soit les lieux d'humiliation, où on faisait la chaîne, les punuries, les trucs, etc. Soit aussi les lieux où il y avait des choses avant qu'on ne pouvait pas justement se permettre, nous les enfants du peuple, nous les enfants d'en bas, etc., donc les jeunes de cette époque. C'est pourquoi d'ailleurs on dit les Stan Smith, etc., parce que ce n'était pas possible pour la majorité des jeunes, des quartiers populaires, etc., de se le permettre. Donc c'est-à-dire, et ça, c'est-à-dire, moi je pense que c'est un fait historique, je veux dire, il va falloir quand même le rétablir. Maintenant, bien entendu, c'est-à-dire l'élite, les militants, etc., on a vite revendiqué les libertés, etc., parce que c'est primordial. Moi, par exemple, à l'époque, je faisais partie du mouvement des journalistes algériens, le MJA, pendant les jours d'octobre, et je sais que le mouvement des journalistes algériens, le MJA, était à l'avant-garde dans les revendications démocratiques, parce que le 10 octobre, je me souviens, on avait décidé de rendre publique une déclaration le 10 octobre, et c'était le jour où Chedli devait intervenir pour la première fois depuis le début des événements, etc., etc., à 20h. Et la déclaration du MJ a été rendue publique et même connue mondialement grâce à, je crois, la radio, pas Monte Carlo, Midi 1, à 19h, une heure avant son discours, et c'était ça le challenge. On voulait absolument que la déclaration ait trop riche. Et moi, personnellement, j'étais parmi ceux qui ont joué un rôle à rédiger, disons, les aspects les plus, il me semble, parce que on a passé toute la journée à négocier les termes de cette déclaration, et c'est-à-dire on a mis la barre quelque part, parce que vous savez, dans le contexte, il y a ceux qui te disent on est pour les libertés démocratiques constitutionnelles. Constitutionnelle, de quelle constitution il s'agit? De celle de 1976, c'est-à-dire celle du parti unique. Il fallait leur dire non, moi je suis pour les libertés démocratiques tout court. Moi, je suis pour, est-ce qu'on reconnaît tous les citoyens ont le droit de faire partie? Tous les libertés d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de manifestation, la liberté, le droit de grève, etc., etc. Donc, et même s'ils ne sont pas inscrits dans la Constitution, ben moi, je me bats pour ces libertés. C'était ça aussi les termes du débat. Et donc, effectivement, au niveau du MJA, on a réussi, il me semble, à pondre une déclaration le 10 octobre 1988, historique de mon point de vue, parce que cette déclaration, comme les revendications étaient, on a mis la barre, disons, quand même, de façon un peu, disons, radicale sur les questions démocratiques, et ben ça a permis le 12 aux avocats de réagir dans le même sens, ensuite les médecins, ensuite, je me souviens, plusieurs corporations, etc., et dans les syndicats, et dans le mouvement étudiant, etc., et le pouvoir, n'était pas du tout pour l'ouverture, pour ceux qui disent, qui veulent nous vendre aujourd'hui que Chedli était pour la démocratie. Quand même, Chedli était à la tête du pouvoir, où il y avait un gars qui s'appelle Nazar à la tête de son armée, qui ont tiré sur le peuple, et il y a eu plus de 500 morts.
Justement, un drame.
Sans parler des mutilés et des torturés. D'ailleurs, il a fallu construire un comité contre la torture, où Bechin, justement, était, après le Khal Ayad, etc., à la tête des services à ce moment-là, et qui ont responsabilité. Et on n'en oubliera jamais. On n'oubliera jamais cette répression. Et on nous vend Chedli, le père de la démocratie. Non. Chedli, ils ont fait ça sous le régime de Chedli. Ensuite, Chedli, quand il est venu sur les questions démocratiques, il a dit les sensibilités, on ouvre le FLN pour les autres sensibilités. C'est-à-dire, rejoignez le FLN. Que vous soyez de gauche ou de droite, on va reconnaître les sensibilités, mais dans le parti unique. Il était pour le parti unique. Ça, c'est son discours officiel. Et ça, c'est de l'histoire. Et comme dirait l'autre, on n'écrira pas l'histoire avec une gomme. Ça, ça reste. Et il a fallu, au contraire, c'est-à-dire ce qu'il faut saisir, et juste là pour, de mon point de vue, en tout cas, éclairer la situation à ce moment-là. Eh bien, c'est les luttes post-5 octobre, c'est-à-dire le 6 et le 7 et le 10 et, le, et en novembre, et etc., qui ont élargi la brèche de l'ouverture. Ce n'est pas... le pouvoir était contre l'ouverture. D'ailleurs, d'ailleurs, pour l'histoire, et là, d'ailleurs, là, ils ne peuvent pas traficoter la constitution de 89, de Chedli. Ben, comment ils l'appelaient, le multipartisme? Les partis, comment on les appelait? On les appelait... Association à caractère politique, caractère ACP. Politique. On ne les appelait pas partis politiques parce qu'ils ne voulaient pas des partis politiques, ils ne voulaient pas du multipartisme, parce qu'ils n'étaient pas pour l'ouverture démocratique, et ils étaient contre les libertés démocratiques.
Le régime était tout le temps était contre l'ouverture politique, mais aussi a été toujours contre l'organisation de la société. D'ailleurs, comme vous le disiez, il appelait
C'est les luttes qui ont imposé un rapport de force réel dans la société politique, qui a imposé au pouvoir d'aller un peu plus loin. Parce qu'il y en a d'autres qui nous vendent Hamroj. Ils disent Hamroj, c'est les réformes, etc. Hamroj représentait à l'époque, quand il y avait le conflit à l'intérieur du pouvoir, je veux dire à la veille d'octobre, il y a M'Saadi à la tête du parti, et ce qui représentait donc l'ancien système, le secteur d'État, disons, ce qu'on appelle la rente, les bureaucrates, l'appareil bureaucratique du pouvoir, tout ça, etc. qu'il y avait. Et il y a ceux qui voulaient s'émanciper de ça, donc les libéraux, donc les gens de droite, j'allais dire, puisqu'à demain, ils sont bureaucrates, etc. Mais ils tiennent, disons, un peu au secteur d'État, au secteur public. Les autres, non, ceux qui sont donc pour la privatisation, pour le libéralisme, etc., ils étaient représentés par le Hamroj à la présidence de la République. Hamroj, c'est-à-dire les réformes de Hamroj de l'époque, c'était tout simplement, il a mis en place l'édifice législatif de l'ouverture libérale, etc., avec tout le désastre social qui s'en suivit. Et là, j'aimerais dire un mot, c'est qu'effectivement, l'ouverture d'octobre n'a pas duré longtemps, n'a pas fait long feu, parce qu'il va y avoir quand même un mot, on doit dire un mot sur la question de l'islamisme, et sur la répression d'octobre qui a commencé la veille d'octobre. Il faut savoir que les militants de gauche, et là, il y a des témoins encore.
Il y a des arrestations à la veille.
Donc les semaines qui ont suivi, on a commencé à arrêter les militants connus de gauche, etc., qu'on pouvait arrêter, parce qu'il fallait plonger aussi dans la clandestinité pendant une période. Et je me souviens qu'il fallait qu'on ne dormait plus. Moi, personnellement, je ne dormais plus à la maison avec d'autres camarades, etc. Il fallait trouver des plans, etc., pendant toute cette période, je veux dire, pour pouvoir échapper un tant soit peu aux arrestations. Et... donc il y a eu la répression de la gauche, des militants de gauche connus, soit dans le mouvement de masse, soit au niveau politique, etc., etc. Et il y a eu beaucoup d'arrestations. Et d'ailleurs, quand on parle de torture et quand on parle d'arrestations, etc., on parle aussi de militants de gauche, notamment, que ce soit des militants, notamment du PACS, parce qu'il va falloir quand même le dire. Le PACS, parti de l'avant-garde socialiste, qui a remplacé le PCA, etc. Le PACS, à l'époque, qui était encore bien plus à gauche qu'aujourd'hui, que le courant qui s'en réclame aujourd'hui, ils étaient bien plus à gauche, etc. Ils étaient implantés dans les syndicats, etc. Ils étaient même le grand parti de la gauche en Algérie, disons, etc. Même s'ils étaient alignés sur l'Union soviétique, voilà. Mais le PACS a subi, par exemple, à la veille d'octobre, une très grande répression. Et pendant octobre aussi, mais aussi le GCA, Nous, nos militants et nos sympathisants ont été aussi réprimés, arrêtés, des choses comme ça, mais pas seulement. Il y avait l'OST qui est devenu le PT de Louise Hanoun, par exemple, etc. Des militants aussi qui ont été réprimés, même auparavant, mais il y avait aussi l'ORT, par exemple, à ce moment-là, qui c'est des camarades qui ont quitté le GCR dans lequel je militais, ils nous ont quittés en 84, et l'ORT qui était implanté au niveau ouvrier un peu, etc. Et aussi, je veux dire, donc la répression a ciblé la gauche. Et paradoxalement, et c'est mon dernier mot, paradoxalement, le 5 octobre, c'était un mercredi, si ma mémoire est bonne, 1988, et le vendredi, donc 7, eh ben, il y a eu Salat al-Jumu'a du côté de Qubba, etc. Et Ali Belhaj a appelé les fidèles à sortir en manif après la prière, au Jaw Api, et le champ de manœuvre. Au champ de manœuvre, le Jadarmiya Jaw, et que font les Jadarmiya? Alors qu'ils réprimaient la gauche. Comme je viens de le dire. Non, ils ont donné le mégaphone, les gendarmes ont donné le mégaphone à Ali Belhaj pour parler à la foule. Et ensuite, d'ailleurs, il a été reçu par le DGSN. Ça veut dire Kabrobe. Ils ont inventé une fraude comme ça. Et déjà auparavant, les islamistes étaient un peu, comment dirais-je, tolérés, etc., pour contrer la gauche. Et d'ailleurs, ensuite, ça leur a échappé. C'est-à-dire la naissance du fils, etc., a créé une situation autre. Ils sont devenus, j'allais dire, hégémonique dans le camp populaire. Hégémonique, ça ne veut pas dire majoritaire.
Avec leur populisme.
Mais ils étaient hégémoniques, c'est-à-dire dans le camp populaire, etc. Les islamistes, notamment radicaux du fils, eh ben, ils ont, avec les élections de 91, etc., même s'ils étaient minoritaires en termes de voix, puisqu'ils ont eu 3 millions de voix sur 9, et dans les conditions très peu démocratiques, etc., avec les menaces, etc., etc. Et donc, c'était pas, ils n'étaient pas majoritaires. Mais les islamistes ont joué un rôle énorme, justement dans, comment dirais-je, dans ils ont constitué, je voulais, un coup près qui a arrêté cette expérience et cette petite ouverture démocratique.
Justement,
parce que entre octobre et les élections de 91, c'était le petit moment du printemps démocratique en Algérie.
Justement, ce petit printemps, 30 ans après, on est dans les mêmes 30 ans après. Donc, on est dans les mêmes ingrédients. Il y a de la crise politique, sociale, économique. C'est une crise à tous les niveaux. On est au bord aussi de l'explosion. On risque de. Comment voyez-vous au PST cette crise, mais aussi cette impasse dans laquelle le pays se retrouve après tant d'années de lutte et aussi d'existence d'un multipartisme qui n'arrive pas à évoluer vu les coups de massue d'un système qui n'arrive pas à accepter que les Algériens deviennent autonomes dans la gestion de leur espace.
Je trouve déjà à l'époque, avec l'ouverture, etc., nos déclarations qui sont consultables, etc., qui existent, nous disions que, pour nous, les libertés démocratiques ne devraient pas être uniquement les libertés pour le petit peuple de parler, et pour les gros bonnets de piller le pays. La liberté de voler pour les riches, et la liberté rayat kemagoul, rayat al rakdan. On a dit les libertés pour lesquelles on se bat, c'est celles aussi qui permettent à tout le monde, à tous les citoyens, etc., de décider des choix économiques, des choix sociaux, etc., etc. Et donc ça c'est un combat. Bon, maintenant aujourd'hui, parce que en fait, les libertés démocratiques, bien sûr on a régressé depuis. On a régressé, même par rapport aux années 90, où il y avait la guerre, où il y avait ça, on a régressé, puisqu'on, dans les années 90, on manifestait. Dans la rue, etc.
Les gens parlaient.
Là, depuis l'arrivée notamment de Bouteflika à Oujbed, c'est-à-dire depuis 2001 à Oujbed, c'est-à-dire on voit bien que finalement le régime libéral, la dictature libérale, la dictature des libéraux, dans un pays comme le nôtre, ne peut pas s'accommoder des libertés. Pourquoi ? Parce que les libertés démocratiques, avant tout, la liberté d'expression, d'organisation, de manifestation, droit de faire grève, notamment, j'appelle de ces éléments fondamentaux, je veux dire, pour les libertés démocratiques, eh ben, ce sont des outils pour la majorité des gens. C'est avant tout des outils pour les travailleurs. Voilà. Pour les jeunes, pour les chômeurs, pour les démunis, pour la majorité, disons, du peuple. Et là, c'est-à-dire, ça ne les arrange pas, le pouvoir. Les libéraux et le pouvoir, qu'ils soient de Bouteflika ou pas d'ailleurs, ça ne les arrange pas que la majorité du peuple puisse manifester, etc. D'ailleurs, ils interdisent les manifestations. Alors, ils ont dit à Alger ce qui est anticonstitutionnel, c'est-à-dire Alger, c'est pas notre pays. Je veux dire, l'Algérie, dans la Constitution, c'est écrit liberté démocratique, mais dans la réalité, ils contredisent leur propre Constitution. Mais là, récemment, quel que soit ce qu'on en pense d'un mouvement qui s'appelle Mouatanol, on leur avait interdit de manifester à Constantine, ou ailleurs. Donc ça veut dire, en fait, il est interdit de manifester aux Algériens. Quand on essaye, par exemple, de structurer une organisation syndicale, ou politique, ou associative, ben généralement, c'est-à-dire, on n'a pratiquement presque plus le droit. Puisque l'administration fait la loi, ne te donne pas d'agrément, ils s'en foutent, il y a des gens qui attendent des années, etc. Ça veut dire on a perdu le droit de manifester, on a perdu le droit de s'organiser. Sur l'expression, on voit bien qu'il y a même de pauvres blogueurs
qui sont interpellés, qui sont poursuivis,
qui sont interdits, qui sont emprisonnés, etc. Et donc, c'est-à-dire le droit de manifester, le droit de s'organiser, le droit de s'exprimer, sur le droit de grève, presque la majorité des grèves en Algérie des travailleurs, sont déclarés illégaux par la justice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi régissant le droit de grève, que les juges donc appliquent, est une loi contre la grève. Puisque la grève est devenue illégale systématiquement. Donc ça veut dire les libertés démocratiques et les droits démocratiques les plus élémentaires sont remis en cause, sont muselés. Et de ce point de vue, il va falloir vite dire que, bien sûr, c'est les acquis, d'ailleurs, quand on parle d'acquis, il y a même un débat là-dessus pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de cette terminologie. Ils disent les conquis, non pas les acquis, c'est-à-dire ce qu'on arrive à conquérir. Et parce que ce qu'on arrive à conquérir, etc., ou acquérir, selon, c'est-à-dire ce n'est pas à vie, on peut les perdre. C'est pourquoi ça veut dire qu'il va falloir se battre de façon continuelle pour garder ces acquis, etc. Et parce que, encore une fois, je le rappelle, les libertés démocratiques, telles que notamment je viens de les rappeler, c'est-à-dire les libertés de manifester, de s'organiser, de s'exprimer, droit de faire grève, etc., liberté de conscience, du culte, etc., etc., c'est des droits dans la majorité de notre peuple, c'est-à-dire les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, les démunis et tous les opprimés de notre pays. On a plus besoin, nous, de ces libertés que les riches, parce qu'en fait, eux, leur liberté, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent, c'est la force de l'argent. On voit que les élections qui relèvent normalement d'un régime démocratique...
Comment on voit le PST, la sortie de crise face à cette...
Non, j'ai terminé sur les élections, on voit que les élections, on achète les voix, ce n'est pas démocratique. Donc ça veut dire ceux qui ont l'argent, c'est cette minorité, je veux dire, d'oligarques et de nouveaux riches, etc., qui ont pillé d'ailleurs notre pays, généralement en alliance avec les puissances étrangères, attention, hein. C'est-à-dire les puissances étrangères, au fur et à mesure, ils s'appuient aussi sur ces gens pour piller nos richesses, comme on le voit dans le sud ou ailleurs, je veux dire les hydrocarbures ou ailleurs, etc. Et donc, c'est-à-dire, de ce point de vue, le combat pour les libertés démocratiques est un combat, je veux dire, d'actualité, parce qu'il va falloir résister et il va falloir reconquérir nos libertés et ça urge.
Ça urge aussi, ça urge, donc pour qu'on termine notre émission, un dernier mot par rapport à la crise politique, et l'impasse politique et le PST, comment on voit cette sortie, justement, comment on voit reconquérir, comment peut-on reconquérir cet espace public qui est celui naturel du citoyen, dont il est privé de force.
Chauffe pour nous, pour le PST, déjà, il est très important de dire que quand on muselle les libertés démocratiques, il faut que la majorité des gens comprennent, c'est pour mieux, par exemple, taper sur les travailleurs et sur nos acquis sociaux. Pas démocratiques, sociaux. Ça veut dire que quand il n'y a pas de liberté démocratique, nos acquis sociaux sont menacés parce qu'on n'a plus les moyens et le droit et les instruments pour les défendre. On n'a plus les libertés démocratiques. On ne peut plus manifester, on ne peut plus se battre. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs ils sont en train de nous écraser sur le plan social. Regardez, depuis combien d'années, depuis 2011 ou 2012 ou je ne sais plus, le SMIC en Algérie n'a pas bougé. Regardez sur le plan du chômage, dans quelle situation la jeunesse algérienne est. Eh bien, ça a à voir aussi avec le recul des libertés démocratiques. Autant les libertés démocratiques sont là, autant on va pouvoir se battre sur le terrain social. Et donc, c'est intimement lié. Il va falloir bien le dire et le redire. Et donc, c'est pourquoi le combat pour les libertés démocratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous intéresse, il est prioritaire pour nous, pour ceux qui se battent du point de vue de la classe ouvrière, pour ceux qui se battent contre le libéralisme. Et nous, qu'est-ce qu'on considère ? On considère que le combat pour les libertés démocratiques, en tout cas, c'est un combat qui doit être unitaire. Parce qu'on peut peut-être, sur les questions économiques et sociales, ne pas être d'accord. Mais sur les questions démocratiques, sur les libertés, etc., etc., eh bien, il va falloir constituer le plus grand front possible. Nous, de notre point de vue, et c'est écrit dans nos déclarations, y compris récentes, il y a encore quelques jours, le PST se bat pour ce qu'on appelle, nous on préfère, une convergence démocratique, anti-libérale et anti-impérialiste. C'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire une convergence démocratique, ça veut dire sur les questions démocratiques, les libertés démocratiques, etc. De préférence, on aimerait que cette convergence s'élargisse contre le choix économique, etc., libéral, capitaliste, économie de marché, qui est en train de privatiser le secteur public, qui est en train de détruire notre tissu économique, notre industrie, qui représentait, il y a 40 ans, presque 35% de notre PIB, alors qu'aujourd'hui, c'est autour de 6 ou 7. C'est-à-dire, pour dire, c'est une destruction de notre économie, le libéralisme. Donc, nous, on aimerait que le secteur d'État, que l'État joue un rôle plus important, parce que les privatisations, etc., sont en train de nous détruire, comme on est en train de le vivre, mais aussi, je veux dire, sur un autre aspect anti-impérialiste, parce que l'impérialisme, c'est-à-dire français ou américain, etc., il y a Total, Wesmo, General Electric, etc., l'essentiel de nos richesses. Donc on aimerait aussi que cette convergence aussi prenne en charge, c'est-à-dire la résistance à ce cours, parce qu'il s'agit de la même problématique. Il s'agit de défendre nos libertés, il s'agit de défendre un choix économique qui puisse garantir, ou du moins qui puisse répondre aux aspirations légitimes au niveau social, des besoins sociaux des Algériens et des Algériennes, et aussi, par rapport à l'impérialisme, aussi une alternative qui défend notre souveraineté, qui défend notre indépendance, et qui puisse nous mettre dans une logique d'être dans ce combat mené par les peuples, par les peuples de la région et dans le monde de ce point de vue.
Merci beaucoup. Donc, Mahmoud Rochdi, secrétaire général du Parti Socialiste des Travailleurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nos chers éditeurs et auditrices, restez avec nous parce que nous avons toute une semaine riche en reportages, en émissions sur le 5 octobre 88, mais aussi avec une semaine sur le signe octobre 88, lutte inachevé. Merci à vous.
Merci à vous.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.